verset 19. C'est une grâce que de supporter des afflictions. Par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Et j'aimerais lire aussi du chapitre 1. Verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole et celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisies et précieuses devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne sais pas jusqu'où je vais arriver. Mais en tout cas, je vais commencer. Pierre. Pour moi, il suffit de dire Pierre et alors je pars dans l'histoire de Pierre. Pierre aimait Jésus. Pierre, c'était ce caractère fort, passionné, qui, ce sauveur, Pierre c'est un sauveur, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, lorsqu'ils sont venus chercher Jésus dans le jardin de Gethsémané, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son épée. Pierre c'est le défenseur de Christ, c'est le défenseur de Dieu. Ah non, 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 vous n'allez pas pouvoir parler comme ça de Dieu, jamais, hors de question. C'est moi qui vais le défendre. Il y a des gens comme ça, hein? Il y a des gens qui pensent que leur devoir, c'est de sauver Dieu. Et lorsque, voilà, on dit quelque chose de mal, ou quelque chose, alors ils se portent aux avant-postes et ils combattent. La réaction de Jésus est intéressante, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû réparer les dégâts de Pierre. Il avait coupé l'oreille du garde. Avec ce simple geste, Pierre remettait en cause toute la rédemption. Quelle valeur aurait une rédemption entaché d'une oreille coupée. Aucune. Mais Pierre a aussi, en plus des expériences qu'il avait eues avec Jésus, être dans le bateau, marcher sur l'eau, la pêche miraculeuse, enfin, des aventures, n'est-ce pas? Eh bien, il a eu un entretien assez serré avec Christ. Un entretien bizarre, où d'un côté, Jésus lui dit, mais C'est Dieu qui t'a révélé ça. Qui dit-on que je suis? Qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, ça c'est le Père qui te l'a révélé, Pierre. Tu es béni. Et lorsqu'il explique aux disciples qu'il allait souffrir beaucoup, qu'il allait mourir, aller sur cette croix, Pierre lui a dit, ah non, 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 non. Et à nouveau le défenseur est arrivé. Ça n'arrivera pas. Moi, je vais veiller sur toi. Je vais veiller à ce que tu ne sois pas un faible. Hein, je vais veiller à ce que ta notoriété d'homme capable soit préservée. Je vais veiller sur cela. Et là, Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, lorsqu'il écrit, il écrit à propos de ce Jésus qu'il a mis un peu de temps à comprendre. Il écrit à propos de ce Jésus qui, lorsqu'il partait sur la croix, avait promis à Jésus qu'il ne le trahirait pas, qu'il irait jusqu'au bout, qu'il serait son sauveur jusqu'au bout. Et il n'a pas réussi. Et vous savez, pour quelqu'un qui a cette force de caractère, pour quelqu'un qui est jusqu'au boutiste, pour quelqu'un qui est capable de se rendre compte qu'il y a eu là un point de faiblesse, une défaillance, eh bien c'est terrible, c'est dévastateur, ça détruit. À l'intérieur. Et Pierre est allé et reparti à la pêche. Mais lorsque Pierre écrit, il écrit à propos de Jésus. Et il écrit avec en arrière-plan toute cette expérience, cette exaltation vécue avec Christ et aussi son échec, sa défaite. Sa faiblesse. Dans les passages qu'on vient de lire, il y a trois notions qui apparaissent clairement quand on creuse un peu. Justement, la notion de la faiblesse, la notion de la persévérance, et plus que tout, la notion de la grâce. Parce que réellement, ce que Pierre a découvert, c'est la grâce de Dieu. Et alors, je vais commencer aujourd'hui, je ne pense pas que je terminerai, mais j'aimerais juste parler de ce processus qui nous amène de là où nous sommes, des sauveurs comme Pierre ou n'importe qui d'autre, là où nous sommes, jusque là, où nous devons être. Et moi, je suis intéressé par les processus. C'est comme ça. Mais je crois que nous sommes tous dans un processus, n'est-ce pas? Nous avons commencé un jour à rencontrer Christ, ou Christ est venu nous rencontrer. Ça dépend de quel angle on voit les choses. Et à partir de ce moment-là, depuis ce jour-là, eh bien, il s'est passé quelque chose et les choses continuent depuis. Pierre était faible. Et parfois, nous réalisons que nous sommes faibles. Mais il y a deux façons de voir la faiblesse. Moi, pendant longtemps, Je me suis considéré comme incapable, comme faible, comme sans talent. C'est tout mon passé qui me disait ça. Mon bulletin scolaire, la culture familiale, n'est-ce pas ? Tout devait être parfait, tout devait être nickel. Et moi, j'avais toujours zéro. Et tout ce que je faisais, ça ratait. Alors, comprenez, il y avait un décalage. Et là, je me sentais faible. Et lorsque je suis venu au Seigneur, eh bien, j'ai continué à me sembler faible. Parce que pour moi, il était évident que dans le royaume de Dieu, c'était la qualité qui primait. C'était la perfection, la Bible en parle, n'est-ce pas ? Soyez saints comme je suis saint. Et donc, je me projetais, je me voyais comme étant quelqu'un de faible et d'incapable. Et j'en souffrais. J'en souffrais beaucoup parce que je n'arrivais pas réellement à avancer avec Dieu. Jusqu'au jour où, en partageant cela avec quelqu'un, il m'a dit « Oui, c'est bien de se sentir incapable. C'est bien de se sentir sans force. » Mais il ne s'agit pas de ton caractère. Il ne s'agit pas de tes talents naturels. Il ne s'agit pas de l'image que tu donnes à la société. Mais il s'agit de la faiblesse de Christ en toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors là, parce que lorsque l'apôtre Paul a demandé à Dieu de lui enlever cette épreuve par trois fois, n'est-ce pas, qu'il enlève cette écharde, Satan, qui vient pour l'abaisser, le souffleter, eh bien, Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc j'ai compris, et vous voyez, je suis lent à la détente, j'ai compris enfin qu'il ne s'agissait pas de ma faiblesse, mais que c'était la faiblesse de Christ en moi qu'il me fallait percevoir. Et lorsque j'ai compris cela, vous savez ce qui est arrivé ? La délivrance. La délivrance. Et donc, voilà, on va tourner un peu autour de cela. N'est-ce pas ? Pierre a découvert la faiblesse lorsque il s'est aperçu qu'il n'était finalement pas capable de sauver Dieu. Et là, on a ensuite cette rencontre, une fois que Christ est ressuscité, où il vient le voir, il lui dit par trois fois, il lui demande « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? » en changeant les verbes. Parce que il savait que c'était important pour Pierre de savoir que Pierre l'aimait d'une manière ou d'une autre. Mais il fallait surtout que Pierre soit sûr que Jésus l'aimait lui. Et c'est ce que Christ a fait en allant le rencontrer après la résurrection. Pierre, on ne va pas rester sur ton échec, parce qu'il y a autre chose à venir. Il y avait un extrémiste musulman, un frère musulman, qui s'est converti. Et il est finalement devenu pasteur d'une église entièrement composé de chrétiens d'origine musulmane. Alors évidemment, en Égypte, même à l'époque de Moubarak, c'était complètement illégal que de faire cela. Et donc, un jour, il a été arrêté, mis en prison et torturé. torturé de toutes les manières possibles et imaginables, jusqu'au jour où on l'a mis dans un endroit, l'endroit le plus terrible qu'on appelait le cube. 1m50 sur 1m50. Pas de lumière, pas de toilette et de la nourriture une fois toutes les 3 jours. En général, les prisonniers devenaient fous dans cet endroit, mais pas lui. Et lorsqu'il parle de cet emprisonnement, il dit la chose suivante. La douleur et la souffrance ramènent à la surface de notre être tous les points faibles de notre personnalité, sans que nous puissions mettre en place les mécanismes classiques de défense. Vous vous retrouvez dans une cellule comme une épave, gémissant, sanglotant, criant, pleurant dans l'obscurité totale, et vous êtes soudainement confronté à la terrible réalité de ce que vous êtes réellement. Et alors que vous êtes prêt à sombrer dans le désespoir, tout près de la mort, une révélation extraordinaire illumine la cellule comme une étoile scintillante. Jésus m'aimait. Même quand j'étais assis dans ma propre saleté, faible, désespéré et brisé, vide et pécheur. Même dans cet état, il m'aimait. Et le Christ s'est approché et m'a rempli de sa présence. Et cette plénitude était d'autant plus merveilleuse que je me sentais vide. La faiblesse, mais je pourrais aussi dire la puissance du croyant, puisque c'est dans la faiblesse que s'accomplit la puissance de Dieu. La faiblesse ou la puissance absolue, c'est lorsque l'on est vide de soi-même. Lorsque tout ce qui est de l'homme a disparu. Et bien malheureusement, très souvent c'est en prison, c'est dans des situations aussi extrêmes que l'homme arrive au plus près de la rencontre avec Dieu. Mais Dieu, comme je l'ai dit donc, ne s'intéresse pas à nos performances en tant qu'humains. Il n'est absolument pas impressionné par notre intelligence. Il n'est absolument pas impressionné par la justesse de nos propos. Il n'est pas du tout impressionné par ce que nous faisons, par ce que nous proclamons, par ce que nous disons être. Toutes ces choses-là n'ont aucune influence sur la façon dont il nous voit. Est-ce que nous nous en rendons compte? Peut-être pas. Peut-être que nous le savons intellectuellement, mais qu'en réalité, nous ne le vivons pas. Et je veux bien l'avouer que parfois moi aussi. Et on le perçoit, il suffit de voir les formes que prennent nos prières, les habitudes que nous prenons, les choses que nous disons, les choses que nous évitons de dire. Parce que d'une certaine manière, nous pensons que si nous agissons de cette manière ou nous faisons de cette manière, ça va influer sur le regard de Dieu. Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à vivre alors que nous étions des enfants. Nous devons apprendre que Dieu ne s'intéresse pas à nos performances, mais qu'il est intéressé par notre état de faiblesse. Que c'est exactement là qu'il nous attend. Et donc, pour bien démarrer spirituellement, pour bien commencer sa vie spirituelle, eh bien, il faut aussi bien être. Vous êtes d'accord? On le voit que bébé Timothée, actuellement, c'est difficile. La naissance est difficile. Il y a des enfants qui naissent avec des handicaps. Et alors, tout le long, c'est difficile. Et la parole de Dieu, ici, au chapitre 1 et au verset 23, nous disent « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. » Vous avez été régénéré, vous avez été généré à nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alors, une semence incorruptible, c'est une semence qui ne subira aucune modification, quelle que soit la façon dont on va la traiter, la façon là où elle va passer, quels que soient les milieux dans lesquels on va la mettre. Elle ne subira pas de modification. Est-ce que vous avez été régénéré par une semence incorruptible? On a envie de dire, mais ça saurait, n'est-ce pas, si c'était le cas? Est-ce que ça se sait? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Une semence incorruptible qui se manifeste par la parole vivante et permanente de Dieu. Autrement dit, vous avez été régénéré par une semence qui ne bougera pas et qui est éternelle. Elle est permanente. Certains vont jouer sur les mots, permanente et éternelle, mais on ne va pas faire ça aujourd'hui. Elle est permanente. Moi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est l'œuvre de Dieu pour notre naissance. Christ, parole vivante, nous a régénérés de façon permanente. Est-ce que nous avons démarré notre vie chrétienne par là? Il n'y a pas d'autre possibilité que celle-ci. Il n'y a pas d'autre entrée dans la foi que celle que nous venons de souligner. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de gens qui inventent des choses autour de cela. Mais en réalité, la naissance spirituelle est très simple. Et Dieu, tout au long de la parole, a fait un comparatif entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Parce qu'il souhaitait ardemment que vous et moi, hommes et femmes simples, nous comprenions bien de quoi il s'agissait. Eh bien, en nous faisant naître de cette façon-là, nous avons reçu la parole vivante. Et nous savons que la parole vivante, c'est Christ. Et en cela, nous avons été dépositaires de quelque chose. De quoi? Du caractère de Christ. On peut aussi dire l'esprit de Christ. Parce que l'homme est un esprit, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas juste des sacs de viande? Lorsque vous disparaissez en tant que personne de chair, il reste quelque chose. En fait, vous n'êtes pas parti. Vous êtes devenu invisible d'une certaine manière. Et sans doute, vous êtes plus près de Dieu que de nous ici. Mais la réalité, c'est ça. C'est que vous avez reçu en vous le potentiel de Christ. Vous avez reçu le matériel génétique de Christ. Et ça, il faut quand même, un jour ou l'autre, s'en rendre compte. Parce que c'est quand même ça qui détermine le reste de notre vie, n'est-ce pas? Alors, je vais m'arrêter là, mais ce matin, on a juste établi une chose. Soit vous êtes né de nouveau, soit vous n'êtes pas né de nouveau. Tout le reste, c'est du bidon. Soit vous avez reçu la semence de Christ en vous, et vous commencez aujourd'hui une marche avec Christ, comme un bébé, vous marchez pas d'abord, on vous porte, ensuite vous marchez à quatre pattes, ensuite vous marchez difficilement sur deux pattes, parce que voilà, c'est difficile d'accepter le déséquilibre permanent. Et ensuite, vous marchez sans y penser. Et vous développez le caractère de Christ. On est d'accord là-dessus? Eh bien, j'en suis fort aise. Alors, je vais m'arrêter là, je ferai les points suivants. C'est pas si longtemps que ça, en fait. Je crois que c'est dans 15 jours. Il me semble. Donc, revenez dans 15 jours. Mais revenez aussi dimanche. Oui, ne venez pas que quand moi je suis là. Parce que sinon, vous n'allez pas venir souvent ces derniers temps. Voilà. Mais prenez conscience que vous avez reçu cette semence. Que cette semence en vous va développer le caractère de votre Père. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Et accrochez-vous déjà à cette vérité. Voilà, je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi, fils et filles. Seigneur, nous avons compris que nous n'avons pas à défendre ta cause parce que nous sommes comme toi. Nous avons reçu de toi. Tout ce qui est en nous nous pousse et nous tire vers toi. Mais ce que nous savons aussi, c'est que cette naissance est survenue au sein de notre faiblesse. Nous savons que c'est suite à notre constat d'incapacité. Lorsque nous avons baissé les bras en ce qui concerne nos propres capacités, c'est là, Seigneur, que tu as pu venir. Et nous sommes nés, Seigneur, de la faiblesse. Et c'est là, Seigneur, que tu as placé ta puissance. Et, Seigneur, je prie pour que la prochaine fois, nous puissions comprendre la merveille que tu accomplis dans nos vies. Que nous puissions saisir cela. Et que nous puissions vivre dans la liberté, parce que c'est comme ça, Seigneur, que tu veux que tes fils et tes filles vivent dans la liberté que Christ a acquise à la croix. Seigneur, merci de nous accompagner encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, de remplir nos champs de ton esprit. Seigneur, que les personnes qui nous écouteront cet après-midi puissent recevoir de toi elles aussi. Dans le nom de Jésus. Amen.